France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Choose France s'ouvre aux investisseurs français. Le sommet réservé depuis 2018 aux étrangers met en avant des entreprises tricolores qui ont promis environ 30 milliards d'investissements en 2025. Et pendant ce temps-là, le tissu industriel français continue de s'effilocher. Le repreneur de l'aciériste Novasco va fermer 3 de ses 4 usines, dont celle d'Agondange en Moselle. Nous serons sur place dans un instant. Volodymyr Zelensky à Paris aujourd'hui. Le président ukrainien a signé une déclaration d'intention pour acheter 100 avions Rafale à la France. Des chasseurs qui n'arriveront pas sur le front ukrainien avant plusieurs années. L'Afrique du Sud accuse Israël de lui envoyer des Gazaouis. L'ONG Al-Majd Europe jouerait un rôle déterminant dans ce que le gouvernement sud-africain qualifie de déportation de la population palestinienne. Une fois n'est pas coutume, le sommet Choose France met à l'honneur cette année les entreprises tricolores qui investissent dans notre pays. Jusqu'à présent, l'événement destiné à enrayer la désindustrialisation française était réservé aux investisseurs étrangers. Changement de cap donc cette année et changement d'endroit pour le sommet qui a quitté le château de Versailles pour un lieu moins prestigieux, la Maison de la Chimie à Paris. Bercy a recensé quelque 30 milliards d'euros d'investissement français cette année à travers 151 projets répartis sur tout le territoire. Sur ce montant, 9,2 milliards d'euros concernent des nouveaux projets que vous avez passés en revue, Annabelle Grelier.
Alors si on regarde un peu en détail ces annonces d'investissement, d'abord géographiquement, ils sont répartis un peu dans toutes les régions, Île-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes tout de même en tête. Qui investit ? À 34%, ce sont des grands groupes, 29% des PME et 23% des start-up. Vient maintenant la nature des projets. 22 projets dans les secteurs de l'énergie, l'environnement et les industries vertes. C'est le secteur qui, en 2025, tire quelque peu les créations d'usines. Par exemple, Carester, qui construit une usine de recyclage de terres rares à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques pour 185 millions d'euros. De Richebourg qui annonce 7 projets de recyclage représentant 130 millions d'euros. Ensuite, le secteur de la santé montre un peu de dynamisme avec 16 projets. Les laboratoires Théa qui ont annoncé un investissement de 75 millions d'euros dans une future usine à La Rochelle. Sanofi qui prévoit une enveloppe d'un milliard d'euros pour moderniser ses sites industriels français. Alors, si on se focalise uniquement sur les nouveaux projets d'investissement, les 9 milliards d'euros, et bien cela concerne essentiellement les centres de données. Le plus gros investissement annoncé est celui de près de 4 milliards d'OPCOR, le groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free, qui prévoit un nouveau data center en Seine-et-Marne sur le site d'une ancienne centrale thermique EDF, qui devrait être l'un des plus importants en Europe.
Annabelle Grelier, merci. Ce sommet Choose France, c'est aussi l'occasion pour l'exécutif de rassurer les entreprises avec un message clair. Le gouvernement est à leur côté en pleine tempête budgétaire au Parlement. À l'occasion d'une table ronde, Sébastien Lecornu a tenu à rappeler aux entrepreneurs l'enjeu politique du moment. Il y a un risque pour le pays bien au-delà des taxes votées à l'Assemblée et qui inquiète les patrons. On écoute le Premier ministre.
Il faut arrêter de faire comme si tout ce qui était voté était réellement voté. Pour l'instant, vous avez des lectures qui sont faites à l'Assemblée. Donc, je serais d'ailleurs étonné que tout aille jusqu'au bout avec un vote favorable à la fin. Donc tout le monde se sera sûrement fait peur pour tout un tas de mesures, dont au fond le vrai risque qui devrait faire peur au monde économique, c'est l'absence totale de budget au mois de décembre. Puisqu'au moment où on se parle, le péril qui pèse sur l'économie française, ce qui malheureusement peut avant tout se produire dans les temps à venir, c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de budget, avec tout ce que ça peut vouloir dire sur la part d'incertitude politique, économique, financière que cela peut suggérer. Et en plus, l'absence de budget peut se faire sous fond d'une crise politique beaucoup plus grave. Donc il ne faut jamais oublier aussi que la notion de compromis maintenant, c'est pour éviter quand même le pire demain. Enfin, on fonce une porte ouverte parce que, on voit bien que je suis le troisième Premier ministre en un an, pas besoin de se faire de dessin. Il y a quand même une opération dernière chance dans tout ce que j'essaie de faire. Et ça, le monde économique, d'en être conscient. Parce que tout le monde en était conscient plutôt au mois de septembre, dans le cœur de la crise. Et là, je sens un tout petit peu un relâchement où, au fond, on fait comme avant, comme si on n'était pas en situation de crise.
Sébastien Lecornu lors d'une table ronde en marge de ce sommet. Il reste que ce volontarisme industriel du gouvernement se heurte à la réalité d'une France qui perd ses usines. Nouvelle illustration aujourd'hui avec Novasco. L'aciériste s'apprête à fermer 3 de ses 4 sites. Saint-Étienne, à Gondange en Moselle et Custine en Meurthe-et-Moselle avec environ 500 licenciements à la clé. C'est en tout cas ce que prévoit le plan de reprise de Novasco validé cet après-midi par le tribunal de Strasbourg. Métal Blanc, le repreneur, ne conserverait que l'usine de Lefrancouc près de Dunkerque qui emploie aujourd'hui 144 salariés. Le gouvernement a décidé d'attaquer en justice l'ancien propriétaire de Novasco, le fonds d'investissement britannique Greybull. À Gondange, l'un des fiefs de l'aciériste, le coup est rude pour le personnel. C'est un reportage sur place de Laurine Benjebria.
À l'entrée de l'usine, les syndicats relaient la décision du tribunal. En face, des salariés au trait tiré.
C'est une délivrance.
Jérôme, 51 ans, peut enfin tourner la page.
Plutôt que d'avoir à chaque fois un rendez-vous avec le tribunal qui est reporté, au moins là on sait.
Ce métallo se dit aussi triste car cela marque la fin d'une histoire familiale.
Mon grand-père a travaillé là, mon père a travaillé là et puis moi aussi. C'est 30 ans de ma vie que j'ai donné et puis au bout, rien.
Il n'attend plus grand-chose non plus des négociations en cours pour le PSE. Selon ses calculs, il pourrait obtenir 27 000 euros d'indemnité.
C'est même pas 1 000 euros l'année. Ça va pas nous apporter ce qu'on a donné ici à la société.
Quelques mètres plus loin, Rafik acquiesce, inquiet pour son avenir.
Pour trouver du travail après derrière, ça sera difficile. 54 ans, trop vieux pour trouver du travail, trop jeune pour aller à la retraite, c'est difficile.
Des difficultés qui dépasseront la seule usine de Novasco, alerte le délégué syndical CGT, Yann Amadoro.
Que ce soit les fournisseurs, les sous-traitants, les commerçants, ça peut impacter des ouvertures de classes dans le coin, ça peut dévaluer les terrains. C'est un gâchis industriel, économique, social, à tous les niveaux.
Et comme beaucoup ce soir, il accuse le gouvernement d'inaction, jugeant insuffisantes les menaces judiciaires évoquées par les ministres.
Laurine Benjebria à Gondange. Le service Page Emploi, servant à déclarer et rémunérer les assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, a été victime d'un vol de données le 14 novembre. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'URSSAF, un vol qui a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés payés par des particuliers employeurs, précise l'organisme. Il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'une déclaration d'intention signée par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Paris. L'Ukraine veut acheter 100 avions Rafale à la France d'ici 2035. C'est à l'Élysée que les deux chefs d'État ont procédé à la signature de cette déclaration d'intention portant sur les chasseurs construits par Dassault avant de tenir une conférence de presse commune. Un moment important pour le président ukrainien qui se félicite de voir l'Occident continuer à soutenir son pays face à l'invasion russe.
La France ainsi que l'Europe libre est à nos côtés. Les États-Unis nous aident ainsi que d'autres pays du monde, depuis le Canada jusqu'aux pays d'Asie, le Japon, aux pays de l'Amérique latine. Nous avons créé une grande coalition de protection de la vie et je remercie Emmanuel pour cela, mais également tous les partenaires, ces coalitions. L'essentiel, c'est que nous donnons de l'espoir aux autres nations, l'espoir que la Russie ne parviendrait pas à faire de la guerre la norme de la vie. L'Ukraine n'est pas seule dans sa défense, elle n'est pas abandonnée et la France sait très bien à quel point c'est important pour nous.
Volodymyr Zelensky tout à l'heure à l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Alors il faudra plusieurs années avant que ces 100 avions Rafale n'arrivent en Ukraine, sachant qu'aucun contrat n'a été signé à ce stade et que la question du financement reste à préciser. Il y a pourtant urgence pour l'armée ukrainienne qui ne s'écroule pas mais qui recule sur le front face aux assauts russes, notamment à Pokrovsk dans le Donbass. Nous sommes avec Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France. Bonsoir.
Bonsoir.
Claude, les Rafales pourraient bien arriver trop tard pour inverser le rapport de force militaire.
Oui, d'autant que vous l'avez bien dit, on parle pour l'instant d'une déclaration d'intention, pas de contrat ferme, le calendrier exact et le financement restent flous. Et puis surtout, ces rafales n'existent pas en stock. On ne les a pas sur étagère, il faut les construire. On parle donc d'une production possible de 2 à 3 par mois, donc tout cela va prendre du temps. Il faudra également former les pilotes. Emmanuel Macron parle en fait d'un accord sur 10 ans et donc sur un engagement de long terme. L'annonce est malgré tout colossale. paradoxal. Hein. 100 rafales, c'est quasiment l'équivalent de ce que possède en ce moment l'armée française. Et l'addition au total pourrait se chiffrer à plus de 13 milliards d'euros pour des appareils tout équipés, sans compter la maintenance. Alors, il est aussi question d'autres armements. Volodymyr Zelensky voudrait acheter le Santé. C'est le système Mamba franco-italien. C'est l'équivalent des Patriotes américains. C'est un système anti-aérien extrêmement sophistiqué. Il est capable d'intercepter des avions, des missiles lourds et donc de protéger une ville entière, mais il n'est pas efficace contre les drones. Kiev prépare donc aussi l'achat de drones anti-drones, de drones de surveillance, de drones d'attaque, et cela à grande échelle. Enfin, la question est de savoir comment payer. Il est toujours question de ce prêt de 140 milliards d'euros, vous savez, qui a été proposé par l'Union européenne. Il serait garanti par les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Mais ce projet, il est toujours aujourd'hui bloqué par la Belgique, qui exige des garanties juridiques et des alternatives sont à l'étude. Et tout cela dépend des décisions des États membres dans les semaines à venir. Malgré tout, cette annonce est quand même un engagement politique extrêmement fort, à un moment difficile pour l'armée ukrainienne, alors que Pokrovsk, nœud stratégique, est en train de tomber sous contrôle russe.
Explication signée Claude Guibal. Varsovie dénonce un acte de sabotage sans précédent après la destruction à l'explosif dans le centre de la Pologne d'une portion de voie ferrée sur une ligne cruciale pour le transport des passagers, d'armes et de marchandises vers l'Ukraine. Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est rendu sur place. Il n'a pas précisé s'il soupçonnait ou non la Russie d'être derrière cet acte de sabotage. Nous attraperons les coupables, quel que soit le commanditaire, promet Donald Tusk. Israël serait en train de déporter des Palestiniens de Gaza en toute discrétion. Cette grave accusation provient du ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola. Il se base sur l'arrivée la semaine dernière en Afrique du Sud de 153 Palestiniens sans visa dans un vol charter. Derrière cette opération, il y a une ONG, Al-Majd Europe. Selon le journal israélien Haaretz, cette ONG est dirigée par un homme d'affaires israélo-estonien qui est en contact avec l'armée israélienne. Thibault Lefebvre, vous êtes notre correspondant à Jérusalem et grâce au journaliste gazaoui Rami Al-Maghari, vous avez pu comprendre comment fonctionnait cette opération particulièrement opaque.
329 Palestiniens sont arrivés en Afrique du Sud depuis 3 semaines, 153 jeudi dernier, 176 le 28 octobre, dont Wessam. Ce Gazaoui a raconté les dessous de son évacuation au journaliste Rami Al-Maghari.
En mai dernier, j'ai reçu par WhatsApp un message d'un ami proche. Il avait quitté Gaza. Je lui ai évidemment demandé comment il avait fait. Il m'a expliqué qu'il était passé par une organisation, Al-Majd, et que cette organisation aidait les Palestiniens à partir en Indonésie.
Wessam sera lui envoyé en Afrique du Sud après avoir payé 3 000 $ par personne, dont la moitié perçue par son intermédiaire. Le 27 octobre, il reçoit à 10h du matin un appel d'un numéro norvégien.
Ils m'ont donné un rendez-vous 3 heures après. On m'a dit que si quelqu'un me demandait où je partais, je devais répondre que j'étais avec le groupe de Palestiniens que la France prévoyait d'évacuer et pas avec Al-Majd.
Une fois sorti de Gaza en bus, Wessam et les 175 autres Palestiniens rejoignent l'aéroport de Ramon, c'est au sud d'Israël, direction Johannesburg via Nairobi au Kenya. Ils n'ont pas de documents en règle, mais obtiennent un visa de 3 mois. Le président sud-africain assure avoir accueilli ces Palestiniens par compassion, mais enquêté sur les dessous de ces vols.
Thibault Lefebvre à Jérusalem avec Rami Al-Maghari à Gaza. L'Allemagne va lever le 24 novembre prochain son embargo partiel sur les exportations d'armes vers Israël, un embargo qui avait été décrété début août en réaction à l'expansion de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Depuis le 10 octobre, nous avons un cessez-le-feu à Gaza qui s'est globalement stabilisé, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Sébastien Hille pour justifier cette décision. Donald Trump a-t-il une stratégie bien définie vis-à-vis du Venezuela de Nicolas Maduro ? Le président américain a semé le doute hier en envisageant de discuter avec son homologue vénézuélien. Dans le même temps, les États-Unis accentuent la pression militaire. Le plus grand porte-avions au monde, le Gerald Ford, est arrivé en mer des Caraïbes. En réalité, Donald Trump pratique la diplomatie de la canonnière qui combine la possibilité d'un dialogue avec la menace d'une intervention armée contre le régime Maduro. Timur Turc nous appelle des États-Unis.
Oui, alors que Donald Trump affirmait hier soir « Nous pourrions avoir des discussions avec Maduro et nous verrons comment cela se passe ». Plus tôt dans la journée, son secrétaire d'État, Marco Rubio, annonçait que les États-Unis allaient classer groupe terroriste le cartel des Soleils, dont Washington désigne le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro comme son chef. Depuis des semaines, l'administration américaine l'accuse d'être lié au narcotrafic et donc maintenant au narcoterrorisme. Une récompense de 50 millions de dollars est promise pour son arrestation. Avec le porte-avions Gerald Ford, 15 000 soldats américains sont désormais positionnés dans les Caraïbes. Pour quel objectif ? Donald Trump a laissé entendre ce week-end qu'il avait pris sa décision sans rien préciser. Le pouvoir vénézuélien y voit une menace claire. Caracas accuse Washington de prétendre lutter contre le narcotrafic pour imposer un changement de régime et s'emparer des réserves de pétrole du pays.
Retour à l'actualité française avec une solution pour 2027 pour le festival de BD d'Angoulême. Mais l'édition 2026 prévue en janvier prochain reste menacée. Ce matin, les acteurs publics locaux du festival, notamment la mairie et la préfecture de la Charente, ont annoncé que l'événement serait piloté par une nouvelle association, l'ADBDA, l'association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême. Elle s'engage à donner davantage de place aux auteurs et aux éditeurs. Insuffisant pour 285 autrices de BD, dont plusieurs lauréates, qui appellent dans le journal Humanité à un girlcott, un boycott au féminin de l'édition 2026 qui reste organisée par la société 9e Art Plus à l'origine de la crise. Baptiste Corteggiani est militant au SNTSO, le syndicat qui regroupe des auteurs et des autrices de BD.
Ces boycotts et girlcotts maintenus pour l'édition 2026. Nous, on maintient ces boycotts et ce girlcott parce qu'on est solidaires du manifeste qui est paru aujourd'hui des 285 actrices du milieu de la bande dessinée. Parce que voilà, on ne souhaite pas participer à un festival qui est encore piloté par un 9e Art Plus. Voilà. Enfin, la situation, vous voyez, du FIBD, ça cristallise un peu tous les problèmes de notre époque, comme les violences et harcèlements sexistes et sexuels, comme voilà, l'exploitation des travailleuses, même des bénévoles d'ailleurs, enfin, la gouvernance toujours opaque et autarcique, enfin, ça relève de plein de problèmes de notre société et au bout d'un moment, ben, forcément, il fallait que ça pète, quoi. On est en train de travailler sur une liste de revendications avec l'Interorga Bande Dessinée, qui comprend des collectifs et des syndicats. Et quand il y a une mobilisation à ce point historique du secteur qui arrive, malgré ses divergences, malgré ses différents intérêts, etc., qui arrive à mobiliser largement les autoristes, les maisons d'édition, etc., pour dire ça suffit et imposer un tel changement à la tête du festival, je pense pas qu'on se tire une balle dans le pied. Au contraire, ça veut dire que voilà, c'est une première victoire pour être encore plus fort plus tard, quoi.
Voilà pour ces propos recueillis par Faouzi Trita. Les difficultés s'accumulent pour le Louvre. Un mois après le cambriolage de la galerie d'Apollon, la direction du prestigieux musée parisien a annoncé cet après-midi la fermeture de l'une de ses galeries par mesure de protection en raison, je cite, de la particulière fragilité de certaines poutres d'une des ailes du bâtiment. Bonsoir Éric Chavroux.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, où se situe exactement ce nouveau souci et quelles en sont les conséquences, Eric ?
Nous sommes dans le prolongement vers le Pont Neuf de l'endroit où ont été volés les joyaux de la couronne, plus précisément dans l'aile sud du quadrilatère Sully, au deuxième étage de ce bâtiment qui encadre la cour carrée le long de la Seine. Et ici, c'est le rapport d'un bureau d'études techniques remis vendredi dernier qui a donc alerté sur la particulière fragilité de certaines poutres portant les planchers en raison, je cite la direction, d'évolutions récentes et imprévisibles. Le lieu est surveillé depuis des années, précise le communiqué, et dans les trois prochains jours, 65 agents du musée vont devoir quitter leur bureau, là où une campagne d'investigation supplémentaire a été immédiatement lancée. Autre conséquence, à l'étage du dessous et pour le public aussi, la vaste galerie Campana a été fermée, un prestigieux écrin de la céramique grecque, rouvert en 2023 après des années de travaux. Le Louvre est décidément bien à la peine en ce moment. Vendredi, deux TikTokers belges connus pour leur canular avaient réussi à accrocher un tableau en Lego dans la salle de la Joconde. Le musée soulignant que leur portrait était composé d'éléments autorisés par le règlement et avait été retiré en moins de 3 minutes. Rappelons que les bijoux volés dans la galerie d'Apollon et estimés à 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés.
Merci Éric Chavroux. Concernant la fermeture par mesure de protection d'une nouvelle galerie au Louvre. Le temps demain, le froid s'installe, surtout sur la moitié nord où les nuages seront nombreux le matin. De nouvelles pluies arrivent par l'ouest de la Bretagne à la frontière belge. Ailleurs, le soleil s'imposera. Demain matin, les gelées seront nombreuses, jusqu'à moins 5 degrés. Du massif central au Grand Est, les températures maximales sont en baisse de 5 à 10 degrés en général, mais encore jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Nicolas Leroulet.